Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité aussi.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements en clandestin.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur le gang des hystéries qui est disponible en écoute donc sur Micro Rebelle mais aussi sur PFM. Donc aujourd'hui dans l'émission nous avons Lily avec nous.
Hello le gang, hello tout le monde.
Et à la technique avec nous et au micro aussi nous avons Luc.
Salut à toutes et à tous.
Donc aujourd'hui, émission consacrée à la contraception, vu que septembre est le mois de la contraception. Donc nous avons tout plein de choses à vous annoncer là-dessus. Mais comme d'habitude, nous faisons un petit tour au niveau de l'agenda. Alors tout d'abord, on parle de contraception. Soirée de la contraception qui est organisée avec la MIPS à Calonne-Ricouart le 26 septembre à partir de 18h30. Donc c'est une soirée où il y a une pièce de théâtre suivie d'une discussion débat.
Donc la MIPS, c'est la Maison Intercommunale de Prévention et de Promotion de la Santé donc sur le territoire du Bruézis.
Et donc c'est à Calonne-Ricouart si vous souhaitez y participer. Le lendemain, le 26 septembre, cette fois-ci ça se passe à Calais, il y a une projection débat autour du film « Si je veux, quand je veux ». Donc c'est un documentaire qui date de 2017 et la sortie nationale se fait le 13 mars 2019. Pour résumer, une femme en France, une femme sur trois avorte au cours de sa vie, une dizaine d'entre elles témoignent face caméra dans des jardins publics. Elles n'ont aucun point commun sinon d'avoir vécu l'expérience de l'avortement après le vote de la loi autorisant l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, en France, en 1975, et d'assumer leur choix. Donc ces différents témoignages pour poser des mots pour elles, mais aussi pour les autres, c'est une parole indispensable pour continuer à défendre ce droit sans cesse menacé.
On sera amené aussi d'ici à la fin de l'année à faire à nouveau des projections de ce documentaire, donc sur Bruay, on espère, et sur Lillers. Donc s'il y a des personnes qui souhaitent nous aider à organiser ça, voilà, entre le mois de septembre et le mois de décembre, vous pouvez nous contacter, nous faire signe sur contact@planningfamilial62.org.
Et si vous oubliez tout ça, n'hésitez pas à aller voir, on ajoute les événements sur notre page Facebook aussi. Autre événement, cette fois-ci propre au planning, c'est notre fameuse rentrée des adhérents et adhérentes. Le 30 septembre, donc à partir de 18h à notre local, au 45 rue François Gauthier à Lens. Donc tout simplement, si vous êtes déjà... ça fait longtemps que vous êtes faire partie du planning et que vous voulez accueillir les nouveaux pour leur montrer tout ce qu'on sait faire, tout ce qui se passe, comment on monte un stand, voir notre merveilleuse bibliothèque avec tout plein de livres, voir tout simplement ce que c'est le planning. Donc n'hésitez pas à venir donc, le lundi 30 septembre à partir de 18h et si vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à l'adresse suivante, donc aline.id@planningfamilial62.org. On continue avec notre bar LGBT mensuel, donc le premier vendredi de chaque mois. Le prochain sera donc le 4 octobre, toujours au local, 45 rue François Gauthier à Lens, à partir de 17h. Donc je rappelle ce qu'est le bar LGBT. C'est un endroit où le temps d'une petite collation non alcoolisée et de quoi grignoter. On parle de tout et de rien entre personnes LGBT+ du territoire et si vous le souhaitez, on a quelques jeux de société pour amener encore plus de convivialité pendant ce moment-là. On continue dans l'agenda avec, cette fois-ci, le 11 octobre, donc ça sera au matin, au local du planning familial, je répète, 45 rue François Gauthier à Lens, de 10h à midi, on a un temps d'échange donc intitulé « Donner naissance par rapport au livre édité par Cambourakis sur l'accompagnement à la naissance, les questions de parentalité queer et différents activismes autour de la naissance. Donc c'est le groupe LGBT+, qui se charge de tout ça. On demande quand même d'avoir un minimum de connaissances sur tout ce qui est santé sexuelle et questions LGBT+ là-dessus. Donc c'est en référence avec tout ce qui arrive sur la loi de bioéthique. Et bon, ça on vous en parlera la prochaine fois, mais cette fois-ci le 4 novembre, toujours au local du planning familial à Lens, un lundi du planning, sur les contraceptions et les contraceptions masculines, qu'est-ce qu'on en connaît vraiment, est-ce qu'on a envie, préservatif, etc., etc., etc. De toute façon, nous allons en reparler dans un instant. Donc, pour commencer cette première partie, comme je vous ai dit, le mois de septembre, c'est le mois de la contraception. Et donc, ben déjà, qu'est-ce qu'on connaît de la contraception déjà en général ? Qu'est-ce qu'on entend le plus parler ? Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Qu'est-ce qu'on connaît de tout ça ? Je pense que déjà, première chose, quand on parle contraception, on parle préservatif. Je pense que c'est une des choses
Ou pilule. Je me demande même si c'est pas peut-être plus contraception, on pense à pilule et préservatif qui est un peu à part, justement. Je me dis comme une idée peut-être quelque chose de plus scindé. C'est-à-dire que le préservatif, il n'est pas entièrement à la maîtrise des femmes. On va revenir sur le fait que maintenant, il en existe plusieurs de préservatifs. Mais on a vraiment l'idée que la contraception, c'est un peu éviter d'avoir des bébés. Et le préservatif, c'est peut-être plus aussi pour les infections, les maladies, les choses comme ça. C'est un peu quelque chose un peu scindé, même si évidemment, ça se recoupe et qu'il y a quand même pas mal de gens au courant que le préservatif empêche aussi d'avoir des bébés, hein, mais moi j'ai l'impression que quand on parle contraception, oui, alors du coup il va y avoir les deux plus connus, donc la pilule et le préservatif. Mais alors du coup il y en a plein d'autres, c'est là où dès qu'on commence à creuser...
Sortir un paperboard et faire la liste.
Voilà, alors le paperboard, la radio ça marche moins bien, mais on va faire un paperboard vocal, hein. Donc oui, alors après pilule et préservatif, qu'est-ce qu'on... Alors déjà, peut-être on peut faire un point sur les nouvelles techniques de préservatif, puisque maintenant il y a ce qu'on appelle... Alors avant, on les appelait préservatif masculin et préservatif féminin. Maintenant, on préfère plutôt le préservatif externe et interne, puisque du coup, on comprend mieux qu'il y en a un qui se place plutôt sur l'extérieur du corps, entre guillemets, donc le pénis, et un autre qui peut se placer à l'intérieur du vagin... d'une personne dotée d'un vagin et qui présente des avantages l'un et l'autre. Donc en tout cas l'avantage le plus sérieux, c'est de ne pas laisser passer éventuellement les spermatozoïdes, donc qui évite effectivement les naissances et les infections sexuellement transmissibles. J'aurais tendance à dire qu'une bonne partie des gens pourraient avoir l'air d'être rebutés un peu par le préservatif dit interne, parce qu'il est effectivement plus grand, plus large. Puis du coup, il est inhabituel par rapport au préservatif externe.
Et il ne faut pas oublier, plus cher.
Et plus cher, ça oui. Peut être quand on ne vient pas le chercher au planning familial ou dans une association qui les transmette gratuitement. Il est effectivement plus cher. Il est en nitrile. Donc quand on entend des gens... Alors quand il y a des gens qui sont effectivement allergiques au latex, donc le préservatif interne est une solution. Quand il y a des dames qui tombent bizarrement très très régulièrement sur des compagnons ou des partenaires sexuels allergiques au latex, au bout d'un moment, il faut pouvoir proposer aussi le nitrile parce que du coup, il n'y a effectivement aucune allergie connue au nitrile, donc ça tombe bien. Et ça pourra aussi, du coup, lancer la conversation sur pourquoi certains hommes se sentent obligés de trouver des excuses pour pas mettre un préservatif.
Bah, y a ça, mais il y a aussi le coup du « Ah, mais j'arrive pas à tenir mon érection avec le préservatif, ça sert trop, et gna 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 ».
Voilà. Donc là, ah oui, alors parce que du coup, le préservatif dit interne, non seulement il peut se poser sur le vagin, et donc il peut se poser à l'avance, longtemps. Donc évidemment, alors longtemps... on s'emballe pas, hein, pas des jours non plus avant, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça sent pas bon.
Mais vous sortez en soirée, vous pouvez, juste avant de partir pour la soirée, le poser et puis être tranquille pour la soirée.
Voilà. On peut le garder un petit peu, c'est-à-dire que si on a dans la même soirée, dans le même après-midi, dans la même matinée, soyons fous, plusieurs rapports sexuels avec la même personne, on n'est pas obligé de changer de préservatif. En fait, ça fonctionne un peu... comme un vagin, on ne change pas de vagin, on ne se lave pas entre deux rapports sexuels. Non, mais je vous vois rire, mais souvent, et quand on présente le préservatif et qu'on explique ça, il y a une petite mine un peu dégoûtée, genre mais non, enfin effectivement, dans une relation sexuelle sans préservatif, et quand on a plusieurs relations sexuelles, bah effectivement, on ne se douche pas entre deux, voilà. Donc ça, le préservatif interne propose ça, mais surtout, il est possible aussi de l'utiliser de manière externe. C'est-à-dire, si on n'a pas eu le temps de le mettre à l'avance et qu'on ne se voit pas trop en train de tourner un peu cet anneau qu'il y a au fond du préservatif et de le poser un peu comme un tampon au fond du vagin, et ben on peut enlever l'anneau et se servir de ce préservatif et le poser directement sur le pénis. Alors, il n'est pas profilé, mais du coup, il ne va pas serrer. Voilà, ça évitera de ne pas tenir une érection si c'était trop serré. Et il est très, très lubrifié. Donc, il est aussi des fois plus préconisé pour les relations sexuelles anales, parce que du coup, il est plus solide et plus lubrifié. Je ne sais pas si on a fait le tour là-dessus.
Sur le préservatif, je pense que oui.
J'anticipe un peu une question à venir. J'anticipe, si je peux me permettre. C'est que l'une des questions qu'on va aborder avec la contraception, c'est que souvent, c'est à la charge des femmes.
C'est vrai,
le préservatif, pour une fois, c'est quand même un truc qui peut se partager et être aussi à la charge des hommes. Alors, je connais mal, hein, donc je ne peux pas... Je n'ai pas dressé de tableau de ce qui est mieux ou moins bien, mais est-ce que pour le coup, ce n'est pas encore une contraception qui reviendrait à la charge des femmes ?
Si, alors on peut le voir sous cet angle-là, mais après, on peut aussi se dire qu'à un moment, dans la négociation de la relation sexuelle, c'est surtout là où ça se passe et peut-être auquel l'enseignement ou les institutions pensent peu, c'est la négociation de la relation sexuelle. Bon, il y a... le monde idéal où effectivement on peut en discuter et poser les choses avant et puis faire quelque chose d'égalitaire, de partagé, de concerté. Et puis bah, y a des fois tristement la vraie vie où on n'a pas eu l'habitude, on ne se sent pas à l'aise pour parler de ces choses-là, on est stressé, on est angoissé, on n'ose pas trop le proposer selon les âges et encore... Je pense qu'il n'est pas uniquement question d'âge pour avoir peur de discuter d'une première fois avec une nouvelle partenaire. Donc c'est vraiment, ça concerne vraiment tout le monde. La négociation de la protection lors d'un rapport sexuel, elle est encore trop souvent compliquée. Et du coup, il est nécessaire de proposer tous les types de contraception possibles. Et on sait que le préservatif interne, il est aussi très utilisé chez des femmes qui n'ont pas toujours le réel choix de la relation sexuelle. Alors que ce soit aussi bien en situation de prostitution, surtout chez des femmes mariées pour lesquelles il y a encore la notion de devoir conjugal, alors chez elles, mais chez leur conjoint, ou des femmes en couple, hein, pas nécessairement mariées. Et où c'est pas encore facile de négocier ça et où monsieur va avoir le choix, la possibilité de dire non, je ne mettrai pas le préservatif dit externe ou dit masculin parce que ça me gêne, parce que voilà, et il faut bien qu'elle trouve un autre moyen pour pouvoir se protéger. Donc, mais effectivement, quand on voit la pluralité, donc on revient sur les types de contraceptifs. Donc il y a effectivement les deux préservatifs, il y a la pilule et donc les multitudes de pilules. Hein, donc une pilule ne va pas aller à toutes les femmes. Chaque femme pourrait trouver la pilule qui lui convient, mais il y a des femmes aussi pour qui la pilule ne convient pas. Donc on n'arrête pas de le marteler, en tout cas au planning familial, c'est que ça doit être un libre choix éclairé, c'est-à-dire que les femmes doivent être informées et avoir le choix face à leur médecin traitant ou gynécologue ou dans les centres de planification pour choisir la pilule. Et donc elles sont pas expertes de la molécule, hein, de l'hormone, mais donc c'est les médecins doivent pouvoir bien les orienter en fonction de leur physiologie, de leur dossier médical, et elles doivent pouvoir avoir le choix de changer, c'est-à-dire qu'on peut essayer une pilule et ne pas se sentir confortable avec, perdre du poids, prendre du poids, avoir des boutons, ne plus avoir de boutons, encore que en général ça gêne pas, mais voilà, avoir mal au sein, avoir des nausées, la contraception c'est une hormone, la pilule c'est une hormone, il peut y avoir des effets, on peut ressentir des effets, et donc une pilule qui ne nous va pas, il faut en changer. Il ne faut pas persévérer, sinon on tombe dans des risques de grossesse non désirée, puisqu'on va mal la prendre, ou elle va nous rendre malade, donc on arrêtera de la prendre sans avoir autre chose.
Et ça marche aussi pour toutes les contraceptions à base d'hormones, que voilà. Ce soit l'anneau vaginal, l'implant, le voilà. Stérilet aussi à base d'hormones. Ça marche aussi. Il faut tester, voir qu'est-ce qui convient le mieux à la personne. Si vous pensez oublier votre pilule, ben un implant ou quelque chose de plus ou moins long, parce que tout dépend du système de contraception.
L'implant pendant 2 ans à peu près. Voilà.
Il y a le stérilet, je crois que c'est 3 ou 5.
Ouais, entre 3 et 5 ans, voilà. Selon les stérilets, selon les praticiens aussi, hein, ouais. Ceux qui les posent. Chacun y va un peu de son avis médical, hein, et on sait que dans d'autres pays, aux États-Unis, il y a certains stérilets qu'on laisse poser pendant 10 ans. Bon, en France, c'est pas le cas. En général, maximum 5 ans, on les change. Oui, tout type de contraceptif. En fait, il faut réussir à déboulonner l'idée que il y aurait une seule contraception. Donc, on l'a dit là, préservatif, pilule, implant, anneau vaginal. Dispositif intra-utérin, ce qu'on appelle le stérilet, donc au cuivre ou aux hormones. Les patchs, maintenant, il y a aussi les patchs.
Les spermicides.
Les diaphragmes.
Les diaphragmes
qu'on utilise avec les spermicides. C'est-à-dire qu'on met du spermicide dans un diaphragme, et le diaphragme, on va le placer au fond du vagin, tout contre le col de l'utérus. La cape cervicale, qui va se placer de la même manière, au fond du vagin.
Le coït interrompu.
Le retrait.
Alors, on va pas le mettre dans la catégorie contraceptif.
Ouais.
Non, c'est pas un dispositif.
Mais c'est une méthode, mais qui n'a pas un super pourcentage de succès, on va dire.
Parce elle peut espacer les naissances éventuellement, mais et alors c'est au risque et péril.
Pour le faire chercher à mes gamins, je leur propose, parce que en tant que prof d'SVT, là-bas j'ai commencé avec mes quatrièmes, donc à un moment je fais une partie sur la contraception et je leur propose deux moyens ou deux méthodes contraceptives. Et à chaque fois ils sont étonnés que le coït interrompu, le retrait, etc. Il y a quand même une fois sur quatre où il y a quand même une naissance derrière.
Donc, je connais mal les chiffres.
Ça refroidit un peu.
Voilà, quand on sait qu'une fois sur quatre, ben, paf, surprise.
Dommage.
voilà. Donc, oui, il vaut mieux un moyen contraceptif qu'une méthode contraceptive, surtout que la plupart du temps, c'est pas, ça marche pas super bien.
Et tout pourrait mieux fonctionner, mais y compris les dispositifs contraceptifs, comme les méthodes, pourraient mieux fonctionner si on avait une connaissance pointue à la fois de notre propre corps, du corps de l'autre et de la physiologie, comment ça se passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que le pénis en érection produit un liquide séminal pour préparer en fait à la relation sexuelle, donc il y a d'abord une goutte de liquide qui va passer dans l'urètre et donc nettoyer en fait cette urètre et de se déposer et permettre de lubrifier le gland. Et quand on sait que dans cette goutte-là, il peut déjà y avoir au moins une centaine de spermatozoïdes et qu'un seul spermatozoïde suffit pour tomber enceinte, on se doute que le coït interrompu, c'est déjà un peu trop tard, quoi. Voilà, ça marche pas. Mais ça, c'est pas des choses qui sont très connues. On imagine le sperme comme un truc unique, fait d'une seule chose et qui arrive seulement au moment de l'éjection. Alors que le sperme, c'est effectivement le liquide séminal plus spermatozoïde, et le liquide séminal a une autre fonction que de déplacer le spermatozoïde lors de l'éjaculation. Il a aussi cette fonction-là de nettoyer l'urètre, lubrifier le gland, et que du coup, bah, voilà, ça ne marche pas le coït interrompu.
Et étant donné que les spermatozoïdes ont une durée de vie de 4 jours hors testicule, ben, si, il en reste dans l'urètre ou dans un autre endroit, bah, c'est comme ça qu'il peut y avoir un...
Voilà, c'est-à-dire que si on s'est masturbé avant ou si on a eu... des rêves érotiques ou autres et qu'on a éjaculé dans les 4 jours précédant la relation sexuelle, oui, il y a des spermatozoïdes qui restent dans l'urètre. Oui, là, on est un peu en plein dedans, là.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Mais du coup, voilà, donc vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et trouver un dispositif contraceptif qui nous convienne. Donc, en tant que nana, donc, on vient de citer un peu les méthodes qu'il y avait, donc l'implant qui peut durer 2 ans, le DU 5 ans, les patchs, et il nous en manquait un, l'anneau vaginal aussi. Donc ça, ce sont des méthodes dites hormonales pour lesquelles il faut tester, parce que du coup, peut-être qu'à 16 ans, on est tellement stressé et flippé de tomber enceinte que du coup, la pilule, tous les jours, on va y penser et tout, mais peut-être qu'à 23, 25, peu importe, on est en plein les examens ou on est en train de postuler à un job, on pense à autre chose, on est avec un mec régulièrement, donc c'est moins inquiétant et tout, on n'a plus le flip des parents de « Ouah, mon père et ma mère, ils vont me déchirer la tête si jamais je tombe enceinte et tout », donc on fait moins gaffe, et du coup, on la prend en retard, on la prend pas, on en
puis,
prend...
Il y a les glaces frelatées aussi.
Il y a les glaces frelatées, on n'y pense jamais suffisamment, vous êtes l'été, vous faites un peu de tourisme et tout, et vous tombez sur une magnifique boui-boui qui vous refile une glace qui a malencontreusement été mal congelée, ou décongelée la nuit et recongelée le matin, par exemple, et vous avez, paf, un coup sur les intestins, une bonne diarrhée, c'est l'ami de la poésie, bonjour, dans les 4 heures après avoir pris votre pilule, et ben, ce cachet-là ne fonctionnera pas. Si vous vomissez pour une raison ou pour une autre, hein, soit on est toujours en période d'été, donc on fait un super barbecue et on a un peu abusé du rosé ou autre, et on vomit, et ben dommage, ce cachet-là ne fonctionnera pas non plus. Si on est l'hiver et qu'on a une magistrale gastro et qu'on vomit régulièrement son cachet et qu'on tente toujours de le reprendre, et ben ça ne fonctionnera pas, et ça on nous le dit trop peu. C'est pas le médecin traitant qui... Ou je veux pas mettre tous les médecins traitants dans le même sac, hein, mais en général, hop, on ressort, on dit oh, « je voudrais bien une pilule », bim, on a une ordonnance et tout, et on a très peu d'explications sur le fonctionnement de cette pilule. Ça, on ne le sait pas, et donc on se retrouve en situation de grossesse non désirée, après une gastro, après une glace frelatée, après une soirée trop arrosée. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Et du coup, si on veut éviter ça, on peut effectivement choisir d'autres méthodes de contraception. Mais toutes ne sont pas effectivement infaillibles.
Et le tout, c'est de choisir celle qui nous convient le mieux.
Voilà, celle qui nous convient le mieux. Parce qu'effectivement, après, quand on arrive à la quarantaine, on peut se dire « Oh, ça, c'est complètement derrière moi, j'ai mes enfants et tout. » Et re-bim, parce que justement, on pensait que ça ne nous arriverait plus du tout. Et donc là, on a aussi la contraception définitive, qui est tout à fait envisageable. Après une demande auprès de médecins et 4 mois d'attente pour être sûr, parce qu'on ne sait jamais, nous les femmes, on ne sait jamais trop vraiment, on n'est jamais trop sûr, hein, de ce qu'on veut. Il faut quand même qu'un médecin vienne nous dire si on avait un peu raison. Et il est possible de ligaturer les trompes ou de poser des dispositifs à l'intérieur des trompes. Comme chez les messieurs, c'est tout à fait possible aussi.
Exactement, donc nous allons y arriver. Donc là, on a parlé beaucoup de contraceptions qui sont plus proposées pour les femmes, mais effectivement, il y a aussi de la contraception qui est proposée pour les hommes. Et pour ça, je vous propose d'écouter un petit reportage donc, qui a été fait par notre amie Louise avec Erwan sur la contraception masculine, et on se retrouve juste après.
Est-ce que tu peux te présenter, et notamment ben, présenter, parce que l'idée là c'est qu'on se rencontre autour de la contraception masculine, et est-ce que tu peux présenter toi ton rôle là-dedans, ce que tu fais là-dedans?
Oui, moi ça a commencé par le fait que j'ai commencé à utiliser une des méthodes il y a 3 ans, la méthode thermique. Et puis, voilà, j'ai décidé de m'impliquer là-dedans et je m'occupe de tisser le réseau qui va permettre de développer la contraception masculine, de développer les outils pour la faire connaître, pour la rendre accessible. Voilà. Donc,
Alors, tu parles de contraception thermique, je pense que ce n'est pas forcément clair pour nous. Qu'est-ce qui existe en termes de contraception masculine aujourd'hui? Voilà, une personne qui a un pénis, si elle veut ne pas se reproduire, qu'est-ce qu'elle peut faire?
Bon, alors, on sait qu'il y a le préservatif et le retrait. On sait que le retrait n'est pas très très fiable. On sait que le préservatif également, il peut avoir des défauts de fiabilité, qui peut être mal utilisé. Voilà. Et donc nous, on fait connaître trois autres méthodes. La méthode thermique, donc on sait qu'il suffit d'augmenter très légèrement la température des testicules pour qu'ils arrêtent de produire des spermatozoïdes. S'ils sont dans le scrotum, c'est pour être à 34 degrés. On les rapproche du corps pour les placer à 36-37 degrés à l'aide d'un sous-vêtement. Et en portant ce sous-vêtement du matin au soir, tous les jours, au bout de 3 mois, il n'y a plus de spermatozoïdes dans le sperme. Par contre, on a toujours la même libido, les mêmes éjaculations, etc. Les spermatozoïdes, c'est 2% du volume du sperme. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui n'est pas contraignante. Voilà. Ensuite, la méthode hormonale, elle consiste à des injections une fois par semaine en intramusculaire d'un dérivé de testostérone. Et ça, en fait, ça va induire la mise au repos, là aussi, des testicules qui arrêtent de produire des spermatozoïdes. Là aussi, on a un délai de 3 mois avant que ça commence à devenir efficace. Ensuite, on a la vasectomie, qui est très très peu répandue en France, mais qui l'est beaucoup plus, notamment dans les pays anglo-saxons, où on a un homme sur 5 qui y a recours, et même un homme sur 3 au-delà de 45 ans. Donc, alors qu'en France, on est à moins d'1% des hommes qui y ont recours.
Alors, la vasectomie, c'est quoi exactement? Comment on procède?
Alors, c'est une toute petite intervention chirurgicale qui se fait en un quart d'heure sous anesthésie locale et qui consiste à sectionner le canal qui se trouve juste à la sortie des testicules et par lesquels les spermatozoïdes vont ensuite être acheminés vers la prostate, les vésicules séminales, pour être disponibles lors d'une éjaculation. Donc, en coupant et en ligaturant ce canal, là aussi, on va avoir des éjaculats qui ne contiennent plus de spermatozoïdes.
D'accord. Mais c'est pas réversible.
Alors, c'est à considérer comme définitif. Néanmoins, on sait qu'il y a dans les pays où c'est énormément pratiqué, on sait qu'il y a 3 à 4% des hommes qui un jour expriment un regret. Néanmoins, dans ces situations-là, on a différentes possibilités. Déjà, on peut faire une congélation de sperme préalable. Et si ça n'a pas été fait, il y a d'autres possibilités. On peut essayer de reconstruire les canaux. Ça marche assez bien si on le fait assez vite. Si on attend 10 ans, effectivement, en général, ça marche moins bien. Et donc, si quelqu'un n'a pas fait conserver de sperme et a attendu trop longtemps pour reconstruire les canaux, il y a encore des solutions. On est capable aujourd'hui d'aller chercher des spermatozoïdes directement dans les testicules puisqu'ils continuent à en produire pour pouvoir faire ce qu'on appelle une ICSI. Donc effectivement, une ICSI, et ben, du coup, en fait, on va injecter directement le spermatozoïde dans l'ovule. Donc on fait cette fécondation-là in vitro avant de pouvoir réimplanter la cellule œuf. Alors voilà, forcément c'est plus compliqué à faire que de faire ça tranquillement sous la couette. Maintenant, les taux de réussite sont assez importants. On est à 60 à 80% de grossesse provoquée par ces méthodes-là. Si on considère l'âge des partenaires qui ont recours à ce genre de méthode, voilà, on voit que c'est quelque chose de tout à fait efficace. Mais c'est vrai que comme c'est plus compliqué à faire, il vaut mieux envisager la vasectomie. Il faut envisager la vasectomie quand on pense très sérieusement qu'a priori on n'aura plus envie de procréer.
D'accord. Parce que est-ce que la conservation elle est automatique ou pas du sperme? Est-ce qu'on peut la demander automatiquement et qu'on nous dira oui, ou est-ce qu'il y a une conditionnalité?
Alors le médecin est obligé de la proposer. Ensuite, libre à chaque utilisateur de faire cette conservation ou pas. Et il peut conserver ça pendant très longtemps, hein, puisque le sperme conservé dans ces conditions-là reste très fécondant pendant des décennies.
D'accord, super, ok. Donc tu parlais des trois méthodes, donc il y avait les quatre, hormonales, le slip thermique, enfin le sous-vêtement thermique, je ne sais pas comment on l'appelle.
Il y a le slip contraceptif. Mm-hmm. Les journalistes ont dit slip chauffant à une époque, on leur déconseille de dire ça parce que le slip lui-même ne chauffe pas. C'est vraiment la chaleur du corps qui est utilisée. On lui a donné un petit nom aussi, le boulot chaud. Historiquement, on l'a appelé aussi le RCT pour Montcouille Toulouse, hein, puisque c'est dans ce coin-là qu'il a été inventé. Mm-hmm. Donc voilà, le slip contraceptif, la méthode hormonale, la vasectomie et forcément le préservatif. Qui même si c'est pas le plus efficace en matière de contraception, reste quand même la seule méthode pour lutter contre les IST, donc c'est important de pas l'oublier.
Oui, et puis c'est le seul qui est, on va dire, directement accessible,
facilement. Qui est utilisable tout de suite, alors que les autres méthodes, même la vasectomie, hein, nécessite un délai avant de devenir efficace, parce que même dans la vasectomie où on va couper le canal, il se trouve qu'il y a des spermatozoïdes qui sont stockés, notamment dans les vésicules séminales, et qu'il va falloir plusieurs dizaines d'éjaculations avant qu'il n'y ait plus du tout de spermatozoïdes dans le sperme.
D'accord. Donc, on a ces méthodes-là, et on peut se poser la question parce qu'on se dit, bon, il y a plein de méthodes de contraception déjà pour les femmes. Alors, pourquoi se préoccuper de la contraception masculine ?
Alors, ça amène davantage de liberté, autant pour les hommes que pour les femmes. Ça amène de la liberté pour les hommes parce que, du coup, si un homme ne veut pas procréer, il ne peut agir qu'avant qu'il y ait fécondation. Une fois que la fécondation a eu lieu, la femme dispose de son corps et tant mieux, ça va pas être remis en question. Donc si un homme veut pas se retrouver face à une partenaire qui lui dit « je suis tombée enceinte et je sais pas si je vais aller au bout de cette grossesse ou pas », mais voilà. Enfin, la décision à ce moment-là n'appartient plus à cet homme-là. S'il veut être libre de ne pas devenir géniteur, faut qu'il agisse avant. S'il n'en a pas pris conscience, il peut vite se transformer en oppresseur en se disant qu'il faut qu'il arrive à décider rapidement sa partenaire, à choisir d'avorter parce que lui ne veut pas être père. Donc aussi bien pour sa propre liberté que pour celle de sa partenaire, c'est important qu'il puisse disposer de méthodes efficaces avant cette fécondation. En termes d'égalité, le fait que, quel que soit notre sexe, on puisse choisir de procréer ou pas, est une question importante. Et puis une fois que ce choix est fait, forcément une méthode de contraception, c'est d'une manière ou d'une autre une contrainte, puisque spontanément nos corps sont plutôt faits pour procréer. Si on veut éviter ça, il va falloir agir dessus, donc il va falloir commencer à se renseigner, ne serait-ce que commencer à se renseigner pour savoir comment est-ce qu'on peut éviter cette fécondation. Donc voilà, le partage de la charge contraceptive, c'est aussi un facteur d'égalité.
Mmh. D'accord, super. Alors, je ne sais pas, peut-être comment les gens aujourd'hui, s'ils sont sur le Pas-de-Calais, est-ce qu'il y a un moment, un jour, une date où ils pourraient venir à ta rencontre pour, je ne sais pas, alors peut-être monter un groupe local parce que collectivement ils ont envie de s'occuper de la question, ou bien juste pour avoir des informations, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ?
Donc là, je suis ici au planning familial de Lens aujourd'hui, donc j'ai pu discuter, c'est la deuxième fois que je viens, pour pouvoir en parler avec les personnes qui y travaillent, et on a décidé de mettre en place ensemble une présentation qui aura lieu le 4 novembre, donc lors des lundi du planning, pour justement mettre en place éventuellement une dynamique localement.
Ok, et ben super. Et puis on pourra un peu en savoir plus sur comment ça fonctionne, etc. Mmh. Et ben merci beaucoup. Et puis donc au 4 novembre à 18h30 au planning familial.
Oui, oui. D'ici là, s'il y en a qui veulent préparer un peu le terrain, il y a un site internet à connaître, contraceptionmasculine.fr, où il y a déjà énormément d'informations.
Ok, super. Merci.
Donc c'était Loïse et Erwan Taverne, donc pour les associations Ardécom et Boulot Chaud, donc qui parlent des contraceptions masculines. Et donc qui sera présent à notre lundi du planning du mois de novembre. Donc pour revenir un peu sur ces contraceptions masculines, donc on voit qu'au final, ce n'est pas que l'affaire
de ces dames, c'est aussi ces hommes qui doivent se prendre en main et faire attention pour faire attention pour pas avoir de grossesse non désirée, comme on le disait tout à l'heure.
Alors Lélie a été très explicative tout à l'heure sur les contraceptifs plutôt féminins. D'ailleurs, je trouve ça très bien parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Est-ce que tu en sais un peu plus sur ce slip, le remonte-couille toulousain? Non, je dis ça parce que j'ai eu l'occasion d'en discuter il n'y a pas très très longtemps justement. Et j'ai un copain qui me disait, moi je mets des boxers très serrés et j'ai eu trois filles jusque-là. Alors justement, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Parce que l'idée, c'est de rapprocher le scrotum du corps pour réchauffer les testicules et que ça empêche la production de spermatozoïdes.
Oui, ouais, il y a même un film qui date des années 70, parce qu'il y a des militants qui se sont penchés sur cette question depuis longtemps. Donc c'est Vade Retro Spermato. Qui relate.
C'est le mauvais goût.
Je trouve ça excellent. Ouais. Qui relate donc ses expériences de slip chauffant, surtout. Hein,
Et qui, comme on disait dans le reportage, que c'est faux, ça chauffe pas.
Ouais. Les slips. Faut pas dire. Ouais.
Pardon.
Non, c'est mais pas c'est le siège, terme. Un siège chauffant chauffe.
C'est ce qu'il dit.
Un remonte couille ne chauffe pas.
C'est ce que disait Erwan dans l'interview, c'est qu'en fait, le slip ne chauffe pas, c'est juste le fait de rapprocher donc, les bourses du corps qui fait que la température augmente. Mais c'est ce qu'il disait, c'est qu'au début, on appelait ça comme ça.
Mais donc, par contre, sur le fait d'avoir des filles plutôt que des garçons.
Non, c'était pas ça la question. Oh, okay. C'est juste sur le fait qu'ils portent des boxers et que je connais pas bien le. J'ai pas le prototype du slip toulousain en tête, mais qu'est-ce qui fait que ça remonte plus, que justement ça permet de réchauffer les testicules? C'était ça ma question. Il y croyait pas en fait, c'était ça. C'est pas le fait qu'il ait eu des filles.
Hein. Non, sur le détail, je sais pas, mais c'est le fait que le spermatozoïde supporte pas la chaise. C'est pour ça que les testicules sont à l'extérieur, hors du corps. Ce qui n'est pas toujours le cas.
Alors il y a les syndromes
les êtres vivants, pardon.
Comment ça s'appelle ça? Le syndrome des testicules remontés, je sais plus comment ça s'appelle, où en fait les testicules ne sont pas descendus et forcément ne produisent pas de spermatozoïdes. Mais la différence entre un boxer même serré classique, c'est que la température ne sera pas assez élevée pour empêcher la production de spermatozoïdes, parce qu'il faut vraiment une température du corps. C'est à 37 degrés, or dans les bourses c'est à 34, donc si on arrive à aller à 35-36, il y aura quand même quelques spermatozoïdes qui vont être produits. Donc en fait il faut vraiment ce système là qui est adapté pour que le scrotum, les bourses et donc les testicules arrivent à température du corps et ne produisent plus de spermatozoïdes.
Et donc contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, c'est fiable, efficace, je sais pas, on sait que il y a un pourcentage de réussite pour le préservatif, pour la pilule.
Qu'il disait aussi dans l'interview, c'est que le problème entre guillemets de cette technique là, c'est qu'il faut attendre au moins 3 mois pour que ça devienne efficace. C'est-à-dire que le temps que ça s'habitue, que les testicules arrivent à une bonne température pour ne plus produire de spermatozoïdes...
C'est hyper efficace comme moyen de contraception, parce que si on n'enlève pas son slip pendant plus de 3 mois...
Non mais je veux dire, il faut utiliser cette technique régulièrement pendant 3 mois pour que ça ne fonctionne plus. Oui, c'est... Après, il faut avoir une grande quantité de
slip,
voilà, pour
qui sont un peu onéreux, il me semble.
Je ne connais pas les modalités d'achat de.
Écoute, on va garder
ce
toutes ces questions-là pour le 4 novembre.
Ouais.
J'avais regardé il y a quelques temps, je m'étais renseigné, et il me semblait que ça m'avait paru un peu cher pour un slip.
J'ai pas regardé.
Déjà que les slips normaux sont un peu chers, mais bon, comme tous les sous-vêtements d'ailleurs.
C'est vrai.
Mais bon, ouais, moi, plus d'infos sur contraceptionmasculine.fr.
Voilà, exactement. Donc, le temps de nous remettre de nos émotions, à moins que tu voulais dire quelque chose d'autre.
Je trouvais que cette question de contraception masculine, en tant que nana, elle m'interpelle, parce que certes, oui, il y a la charge de la contraception qui pèse sur les femmes, en tout cas sur le fait de savoir maîtriser et contrôler les naissances pèse sur les femmes depuis très longtemps, et que c'était un problème, et que oui, partager cette démarche, c'est une démarche d'égalité, mais ça remanie tellement les cartes que ça pose la question de la confiance et comment on pourrait comment moi je pourrais me défaire de ça et estimer quelqu'un d'autre que mon partenaire puisse gérer ça. Et c'est quelque chose qui me serait, moi, difficile. Après, c'est juste une opinion personnelle. Hein. Mmh. Mais du coup, ça repose la question de, ce qui m'interpelle, mais comment font les hommes depuis autant de temps et on comprend, du coup, un des fondements du patriarcat et de l'oppression masculine sur... c'est angoissant d'imaginer laisser à quelqu'un d'autre... la procréation, l'idée de procréation, et que on a encore du boulot avant de réussir, parce que Erwan le dit bien que une fois que une fois qu'il y a eu conception, les cartes sont dans le camp des femmes, parce qu'on est libre de maîtriser notre corps, mais ce qui n'est pas le cas partout, hein, effectivement. Et du coup, je me dis, c'est quelque chose qui va rebattre les relations femmes-hommes, parce qu'il va falloir regarder ça à nouveau, se faire confiance, comment on fait et tout. Et est-ce que celles qui se sont emparées de ça et qui le maîtrisent bien pour elles seront en mesure de lâcher prise et se dire, peut-être que c'est au partenaire de gérer cette question-là à partir de maintenant. En tout cas, on attend toujours un pourcentage plus important d'hommes en France qui acceptent la vasectomie par rapport à un certain âge.
Oui, puis j'allais dire, je te rassure d'ici à ce que en France, une part significative d'hommes hétéros acceptent de prendre cette charge contraceptive. Il va se passer, va y avoir de l'eau qui aura coulé sous les ponts.
Ouais, je serai à la ménopause, je ne me poserai plus la question.
Même si effectivement, on a parlé tout à l'heure des chiffres de la vasectomie, vu que c'est un des autres moyens de contraception, ils sont assez, assez élevés, pas forcément en France, mais dans d'autres pays, c'est assez surprenant. C'était quoi ?
Et il était dit que dans les pays anglo-saxons, c'était un homme sur 5, donc 20% des hommes, et au-dessus de 45 ans, c'était un homme sur 3. Donc en fait, c'est beaucoup plus démocratisé, on va dire, dans d'autres pays. En France, on est un peu en retard sur ces questions-là.
Je pense qu'il serait intéressant de faire le rapprochement entre ce chiffre-là, ces statistiques-là, et l'éducation à la sexualité, pour voir un peu, à partir du moment où les garçons, puis les hommes, comprennent comment fonctionne leur corps et fassent bien la différence entre l'érection, l'éjaculation et la présence de spermatozoïdes, dans le liquide séminal, dans le sperme, je pense que ça fait monter les statistiques de choix de la vasectomie, parce que du coup, une fois qu'on sait qu'on veut plus d'enfants, parce qu'on en a eu déjà, ou qu'on sait vraiment qu'on n'en veut pas, on peut faire plus librement ce choix-là, si on n'a pas l'impression de perdre une partie de sa virilité ou je ne sais quoi.
En rappelant aussi que, comme il avait été dit, ce n'est pas parce qu'on fait une vasectomie qu'il n'y aura plus d'éjaculation.
Bah oui.
C'est pour ça qu'on enlève uniquement le spermatozoïde dans le sperme, mais il y a quand même encore le liquide séminal, donc il y aura quand même toujours éjaculation.
Voilà.
Donc cette perte de virilité, c'est pas du tout fondé. Petite pause, petite musique, et puis on se retrouve de suite après.
Les flashs mais les noms qu'on met. bien en chair, qu'est-ce que ça peut vous faire? Dites bien autour de vous que Vénus en a marre d'incarner la beauté, d'être une superstar, d'apprendre l'histoire de l'art à des touristes ignares. Il comprend ma pudeur, je lui ouvre mon cœur. C'est un battement de cils que se noue notre idylle. Fin de l'aventure, c'est l'heure de la fermeture. Dites bien autour de vous que Vénus en a marre d'incarner la beauté, d'être une superstar, déclinée en poster en millions d'exemplaires. Dites bien autour de vous que Vénus en a marre d'incarner la beauté, d'être une superstar, enlaînée par la gloire, comme un monstre de foire.
Alors aujourd'hui, on est content dans le gang, on va inaugurer une nouvelle chronique. Donc déjà, c'est nouveau, on est content et en plus, on est hyper ravis. On a bossé sur un jingle qui nous plaît trop, donc on est trop excités de vous le faire entendre. Et donc voilà, cette nouvelle chronique aura pour objectif de mettre en valeur des parcours de femmes. De toutes les femmes possibles et inimaginables qu'on découvrirait, alors que ce soit dans l'histoire, dans la politique, dans la littérature, la musique, enfin tout, tous les domaines. Et puis on attend vos retours, savoir s'il y avait des femmes que vous voulez mettre à l'honneur. Et puis bon, allez, je me tais, on en reparle après. Et on vous fait entendre du coup cette nouvelle chronique.
Tawanda. La chronique badass. Ah,
from her, you bitch!
Réveillez-vous, les filles! On va laisser les hommes sauver l'univers?
Dodge this.
Ouais, on est trop
bien!
Bravo! Alors voilà, aujourd'hui, du coup, inauguration de cette chronique. Et on a décidé de mettre en avant, du coup, une très ancienne poétesse, philosophe, Christine de Pizan. Voilà, ça tranche un peu avec le côté hyper moderne de notre super jingle. Et Christine, oui, parce que je l'appelle par son petit nom, voilà, Christine. Elle est née en 1364. Eh ouais, elle est pas toute jeune. Bon, elle est quand même morte en 1000.
Elle est plus toute jeune.
Donc, elle est née à Venise. Et effectivement, elle est à cheval entre le 14e et le 15e siècle. Mais elle est considérée quand même comme une poétesse française. Du coup, après, elle a passé le plus clair de sa vie en France. Et pourquoi, du coup, on l'a mis en avant? Parce que, ben voilà, quand on est à l'école, que ce soit le collège, le lycée, mais aussi à la fac, moi j'ai fait des études d'histoire, on m'a assez peu parlé et on nous parle assez peu d'autrices, de poétesses. C'est pas un truc nouveau, j'enfonce une porte ouverte, on le sait que, mais du coup le fait qu'on nous en parle peu, on a l'impression qu'elles n'ont pas existé, qu'elles n'existent pas, du coup c'est bien ça, l'invisibilité de la participation des femmes à la société, à l'histoire, au monde politique, à l'avancée de notre humanité. Et bien la chronique, elle aura pour effet de lutter contre cette invisibilité, et donc on parlera de femmes qu'on aurait dit badass parce qu'elles auront fait des trucs de fou, que ce soit écrire des poèmes du coup et lutter contre la misogynie au 14e siècle, mais aussi avoir élevé des tas d'enfants en bonne santé ou je ne sais quoi, enfin voilà, on va en mettre plein de choses là-dedans. Et donc Christine, elle était donc philosophe et poétesse. du 14e au 15e siècle, et elle était tellement badass que un de ses bouquins, donc La Cité des Dames, elle met en avant tout un tas de nanas qu'elle estime être des femmes qui ont participé voilà, à la fondation de notre civilisation. Donc, c'est-à-dire que déjà, elle était voilà, du 14e siècle, mais en plus, elle parle de meufs d'avant elle et tout. Donc, cette Cité des Dames, elle mériterait qu'on se penche là-dessus, et on le fera, hein, effectivement. Et non seulement donc elle écrit ce bouquin-là, mais en plus elle le décore. Hein. Vous savez qu'au Moyen-Âge, alors les livres, ils étaient écrits, c'était pas les imprimeries de maintenant, évidemment. Hein, donc il y avait une écriture magnifique, mais aussi des enluminures, donc c'est-à-dire des dessins et des décorations autour des pages. Et une des enluminures que moi j'ai trouvé la plus géniale, c'était donc du coup une enluminure reprenant le Christine de Pizan qui est guidée par la raison, qui est couronnée, donc c'est une autre dame qui incarne la raison, et elles toutes les deux, truelle en main, en fait, pose les premières pierres d'une muraille qui doit protéger la Cité des Dames, hein, donc ce lieu qui doit protéger ce lieu de la misogynie ambiante. Bon, alors moi je trouve que ça claque grave au XIVe siècle, se lancer là-dedans. Et je ne vais pas aller dans le détail de tout son parcours, mais on voit que, bon, certes, c'était évidemment une femme un peu de la haute, hein, parce que donc au XIVe siècle, une femme qui sait lire et qui ensuite écrit, c'était pas une gueuse, hein, forcément, hein, c'est sûr. Mais grâce à un père qui, quand même, était quelqu'un qui a voulu qu'elle puisse recevoir cet enseignement. Du coup, il lui choisit un mari, voilà, elle a pas trop le choix. Bon, on est quand même au XIVe siècle, hein, on va pas non plus bousculer trop de trucs. Mais en même temps, elle est plutôt bien tombée. Son mari est plutôt sympa apparemment, et puis ils tissent ensemble un réseau, et donc elle est clairement impliquée dans ce réseau de relations sociales, littéraires, philosophes. Ce qui lui permet que quand il meurt, parce qu'il a quand même dû attendre qu'il meure pour elle prendre un peu la lumière, hein, des spotlights. En tout cas, quand il meurt, elle se retrouve chef de famille. Elle ne se remarie pas, la scélérate.
Ouh là là.
Et elle n'entre pas au couvent. Donc, c'était voilà, preuve de luxure et un truc horrible. Et non, elle devient chef de famille. Elle a trois enfants à charge, sa mère et une nièce. Voilà, fallait pas trop. Voilà. Non seulement les trois enfants, c'est déjà quelque chose, mais en plus la mère, la nièce et autres. Et elle continue quand même, et elle arrive à se creuser un trou dans les philosophes et les écrivains de l'époque, et elle est quand même soutenue, ce qui peut aussi aller à l'encontre d'une idée reçue, c'est-à-dire que genre notre période, là, moderne, contemporaine, serait hyper progressiste par rapport à des temps obscurs. Eh ben, c'est peut-être quelque chose à revoir et se dire, tiens, comment on nous a transmis l'histoire, comment on nous a appris les choses pour justement faire que le présent soit transformée par une idée erronée qu'on aurait dû passer, puisque en fait ces livres, c'est-à-dire si elle a pu en écrire, c'est-à-dire s'ils ont pu être publiés, il faut imaginer le temps que ça pouvait prendre d'écrire un bouquin et de le copier de cette manière-là, c'est parce qu'il y avait des commandes. Et donc si une femme qui écrit n'est pas commandée, je veux dire, elle n'écrit pas de bouquin, quoi. Elle en écrit un, elle le garde pour soi parce qu'elle a un peu de thunes, éventuellement pour sa mère, tout ça, mais enfin bon, comme en plus elle l'a à charge, donc à mon avis elle lisait le même, hein. Donc bon, elle en aurait écrit qu'un. Là, il y a quand même des princes et des rois qui les lui commandent, et donc c'était peut-être pas complètement aussi impossible qu'une femme puisse écrire et être lue et avoir une renommée et débattre d'idées philosophiques, parce que c'est ce qu'elle a fait tout au long de sa vie. C'est peut-être moins impossible que ce qu'on a bien voulu nous transmettre dans nos leçons d'histoire. C'est peut-être plutôt les historiens qui ont suivi, qui ont invisibilisé ces expériences-là. Est-ce que vous voyez autre chose à ajouter sur Christine de Pizan ? Il y aurait des tas de choses à ajouter sur Christine de Pizan, mais je suppose qu'on a un temps réduit. Est-ce qu'on me parle dans l'oreillette ?
Il reste 3-4 minutes.
3-4 minutes.
3-4 minutes, est-ce que tu y auras un petit truc supplémentaire
à nous dire
sur, moi, j'aurais bien aimé
sur la petite cri-cri.
Un poème.
Et alors,
il y a un petit passage.
Il y a un extrait qui a l'air sympa. Alors, je ne sais pas si on parle du même, hein, mais parce que, évidemment, voilà, on relie l'histoire à l'aune de nos représentations. Et donc, il y en a qui se sont lancés sur essayer de se dire « Ah ouais, Christine, elle était hyper féministe et tout. » Puis il y en a d'autres qui ont dit « Ah non, féministe, nana. » Bon, c'est pas le sujet. On est au XIVe siècle. Elle a fait des tas de choses et tout. Mais quand même, il y a une de ces citations qui est notable et qui disait que si la coutume était de mettre les petites filles à l'école et que communément on les fit apprendre les sciences comme on le fait aux fils, qu'elles apprendraient aussi parfaitement et entendraient les subtilités de tous les arts et les sciences comme ils le font. Voilà, donc elle se dit bien que tout est question d'éducation. Et que c'est quelque chose qui peut résonner, qui résonnait à l'époque, qui peut encore résonner maintenant. Quand on voit la tronche, excusez-moi du vocabulaire, hein, mais de certaines filières dans des lycées professionnels ou autres, et qu'on continue de croire que les hommes ne seraient pas capables de faire telle ou telle chose qui sont réputées plus féminines, ou les femmes ne seraient pas capables de faire tel ou tel cursus réputé masculin. Bon, et ben voilà, dès le 14e, il y en a qui avaient compris que si on était éduqué et qu'on apprenait les mêmes choses, et ben selon nos capacités individuelles, nos capacités propres, on pourrait remplir, voilà, et faire des tas de choses, et gravir des tas de montagnes, et construire des tas de murs contre la misogynie ambiante. Enfin, non, ça, c'est peut-être une utopie, excusez-moi.
Non, mais c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Lily, pour cette première chronique badass. Sur ce, ben, c'est le moment de se dire au revoir. Donc, pour écouter ou réécouter l'émission...
Non, pardon.
La prochaine fois, on te mettra une petite fin de jingle. Donc, sur PFM, vous avez plusieurs rediffusions, donc suite à la première diffusion, et sinon, c'est sur Micro Rebelle. Sur ce, on vous dit au mois prochain, et prenez bien soin de vous.
Ciao, ciao.
Homme, c'est à toi que je m'adresse. Toi, chasseur sachant chasser, n'essaye pas de mettre en laisse, ça risque de m'agacer. Comme d'autres chiennes errantes, j'ai arraché mon collier, ni parano ni méchant. Je suis seulement aux aguets. Détaché, enragé, femelles en liberté, ni musées, ni tatouées, impossible à contrôler.
Ne fais plus semblant.
Détaché,
d'être douce et disciplinée, et on montre les dents.
Femelles en liberté,
à ceux qui veulent nous attacher, qui voudraient qu'on fasse la belle, debout, assises, couchées, qui se permettent de nous toucher,
impossible à contrôler,
sans nous apprivoiser,
debout, assis, couché, debout.